Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité cette semaine, comme la semaine dernière, est Jean-Marie Haribet, professeur d'université à Bordeaux. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à des gros mots, pour ainsi dire. On va essayer de comprendre ce que c'est. Moi, j'ai jamais très très bien compris la différence entre capitalisme et libéralisme. Ces derniers temps, on entend parler de mouvements qui seraient qui s'opposeraient au libéralisme. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre les deux termes de libéralisme et de capitalisme ?
Effectivement, ces deux termes, au cours des dernières années, ont été souvent pris l'un pour l'autre, et cette assimilation, pour ne pas dire cette confusion, est le fait à la fois des tenants du système comme de ses adversaires. Alors cette confusion est d'autant plus surprenante, et vous avez raison de vouloir débroussailler la question. Pour le dire simplement, capitalisme et libéralisme ont quelque chose à voir, mais ont cependant renvoie à des niveaux différents. Alors à quel niveau renvoie ces deux termes, ces deux notions? Le libéralisme, c'est plusieurs choses d'abord. Le libéralisme, c'est d'abord une philosophie politique qui est née, disons, à la suite du siècle des Lumières, pour aller vite, une philosophie politique qui assure la primauté de l'individu et déclare tous les individus libres et égaux. Mais ce n'est pas qu'une philosophie politique, c'est aussi une doctrine économique. Une doctrine économique que l'on peut décliner sous deux aspects. C'est d'abord une présentation du capitalisme, et c'est un discours normatif sur le capitalisme. Alors, ça nécessitera ensuite que nous définissions le capitalisme. Bon. Alors, je reprends chacun de ces points. Une présentation du capitalisme. Ce système économique est fondé sur la propriété privée, qui est un droit naturel. Donc, il y a une déclaration de principe. La propriété privée est un droit naturel. Et la recherche de l'intérêt individuel mène à l'intérêt collectif. La somme des intérêts individuels recherchés par chacun d'entre nous doit nous mener spontanément à l'intérêt collectif. Et de ce fait, la société, on peut considérer que la société, au sein de la philosophie libérale, la société est née de la multiplication des contrats marchands que nous, les individus. Voilà, en gros, pour résumer très vite, ce qu'est la présentation du capitalisme par le libéralisme dans sa version doctrine économique. Mais c'est aussi un discours normatif sur le capitalisme que l'on peut résumer ainsi. Rien ne doit entraver le marché. Rien ne doit entraver le fonctionnement de celui-ci, et donc l'État doit être réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire doit se limiter à garantir que les règles du jeu sont respectées par tous et sanctionner éventuellement les agents qui contreviendraient à ces règles. Voilà un peu ce que c'est que le libéralisme. Donc une philosophie politique et en même temps une doctrine économique. Alors, mais implicitement, j'ai fait référence à la deuxième notion, le capitalisme. Oui. Le capitalisme, alors lui, ce n'est pas une philosophie politique, ce n'est pas une doctrine économique, c'est un système, c'est-à-dire une organisation de la société qui trouve sa légitimation dans le libéralisme, à la fois dans sa version philosophie politique et en même temps dans la doctrine économique. Système économique, organisation de la société, donc, qui est fondée, cela tout le monde le sait à peu près, sur le fait que les uns sont propriétaires des outils de production, tandis que les autres, dépossédés de ces outils, sont obligés pour vivre de vendre leur force de travail. Les premiers salariant les seconds, et donc vivant sur le fruit du travail effectué par les salariés. Et donc, ce système économique ne peut connaître une extension qu'en généralisant l'emploi de la force de travail salariée, c'est-à-dire en prélevant une partie de la richesse produite par ceux-ci.
Si on va un petit peu moins vite, c'est Nécon, finalement, la doctrine libérale. Parce que vous avez parlé du XVIIIe siècle, je pense que c'est un petit peu plus tardif, l'élaboration de ce que vous disiez sur la recherche de l'intérêt individuel qui amène à l'intérêt collectif.
Alors, la philosophie politique, qui est le premier volet du libéralisme, est née, je vous le disais, à peu près à partir du siècle des Lumières, et la doctrine économique est née un petit peu plus tardivement, pratiquement simultanément à l'avènement du capitalisme. C'est-à-dire que les premiers économistes, que l'on peut appeler libéraux, ont écrit, ont pensé au moment où la révolution industrielle et le capitalisme sont apparus, alors en Europe, le premier pays avoir connu cet événement-là fut l'Angleterre, qui est le premier pays européen à avoir connu la révolution industrielle et donc dans lequel est né le capitalisme, et c'est le premier pays aussi qui a vu une pensée économique constituée émerger, avec notamment Adam Smith à la fin du XVIIIe siècle.
Et quand vous dites l'avènement du capitalisme au XIXe siècle, il n'y avait pas de capitalisme avant?
Alors, c'était une forme de pré-capitalisme, disons, mais qui était essentiellement axé sur l'échange des marchandises. Pour ça, on parle de capitalisme marchand. Pour aller vite, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, une bourgeoisie commerçante s'est peu à peu enrichie, non pas en faisant produire des marchandises pour les vendre ensuite, mais en faisant du négoce à travers le monde, à partir du moment où on a ouvert la route de l'Amérique, la route des Indes, etc., en faisant du négoce pendant 2 ou 3 siècles, et ce n'est qu'au bout de cette période-là qu'il y a eu une première mutation, c'est-à-dire que les capitaux, au lieu de s'investir exclusivement dans la transaction de marchandises exotiques, se sont investis dans la production, et ça a donné naissance à l'industrie.
Qu'est-ce que remettent en cause les gens qui s'opposent au libéralisme ?
Alors, nous abordons la deuxième partie de votre question initiale. Donc, après avoir défini la différence qu'il y a entre le libéralisme et le capitalisme, donc étant le système et le libéralisme, pour aller vite, légitimement, dans le domaine des idées, celui-ci, devant les dégâts provoqués par la libéralisation accélérée que le capitalisme a connue au cours des 2 ou 3 dernières décennies, un certain nombre de mouvements sociaux, de syndicats, s'opposent donc à cette forme, à cette évolution que l'on appelle alors indifféremment mondialisation, mondialisation libérale, mondialisation financière. Alors, pour que les choses ne soient pas trop obscures, pour ne pas dire simples, ou clair. Disons que ce que l'on appelle la mondialisation est le résultat d'une évolution qui s'est produite au cours des 30 dernières années, qui a vu une liberté totale de circuler pour les capitaux leur être accordée. Les capitaux circulaient déjà auparavant, mais un certain nombre d'obstacles avaient été mis en place et maintenus dans l'après-Seconde Guerre mondiale, et progressivement, à partir des années 70-80, ces obstacles sont tombés un à un. Et aujourd'hui, une liberté totale de circuler pour les capitaux existe, et ceux-ci ne s'en privent pas pour aller participer à la production de la richesse dans le monde et s'en approprier la plus grande part. Donc ce que l'on appelle mondialisation, c'est donc cette ouverture généralisée des frontières à la circulation des capitaux et, par voie de conséquence, à la circulation des marchandises.
Est-ce que le libéralisme amène forcément à la mondialisation ?
Alors, les décisions... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le libéralisme, c'était un discours normatif sur le système, sur le capitalisme, parce que ce libéralisme s'exprime par des politiques qui sont menées par les États ou par des groupements d'États à tel ou tel moment. Au cours de la décennie 70-80, un certain nombre de décisions ont été prises pour abaisser toutes les barrières à la circulation des capitaux, pour passer des changes fixes aux changes flottants, pour rendre ses prérogatives au marché en privatisant un certain nombre d'entreprises publiques un petit peu partout dans le monde et maintenant un certain nombre de services publics. Donc il y a eu une régression de l'intervention régulationniste des États au cours de cette période, et au contraire, a été donné aux forces du marché des champs, des domaines d'action nouveaux, ou en tout cas plus étendus, puisque aujourd'hui, des secteurs traditionnellement reconnus comme étant d'utilité publique et donc maîtrisés par la collectivité sont menacés de privatisation ou de privatisation rampante. C'est l'énergie, c'est la santé, c'est l'éducation, les retraites, qui sont donc dans le collimateur des libéraux aujourd'hui, pour justement donner au système économique capitaliste toujours de nouveaux champs d'activité où il puisse rentabiliser les capitaux.
Ça suppose une extension dans l'espace aussi ?
Alors, c'est justement l'un des problèmes, c'est que l'extension dans l'espace, elle a des limites, parce que il n'y a plus aucune contrée de la planète dans laquelle le capitalisme n'est pas pénétré. Alors certes, il a pénétré à des degrés divers. Il y a encore de vastes régions dans le monde où les paysans vivent sur leurs petites parcelles de terre et n'ont pas encore beaucoup de rapport avec le marché mondial. Mais ça vient. Quand on voit la pression exercée par les firmes multinationales pour imposer des organismes génétiquement modifiés, on comprend pourquoi ils ont l'ambition d'assujettir définitivement tous les paysans de la planète à la fourniture des semences, puisque vous savez que les semences puisque les semences OGM sont stériles, donc obligent les paysans du monde entier à venir se réapprovisionner chaque année. Donc il n'y a plus aujourd'hui un seul espace géographique qui soit encore préservé de la pénétration du capitalisme. Bon. En revanche, il y a encore des espaces sectoriels qui sont plus ou moins préservés de cette pénétration. Et ces derniers espaces sectoriels qui étaient préservés jusqu'à présent, c'était, je vous l'ai dit il y a un instant, le système des retraites, le système de la santé et assez largement le système éducatif. Et ce sont ces trois domaines-là qui sont au centre, par exemple, du bras de fer qui se déroule actuellement au sein de l'Organisation mondiale du commerce au sujet du fameux accord général sur le commerce des services, bon, qui vise à libéraliser tous les secteurs concernés que je viens d'évoquer. Et puis, il faudrait aussi également mentionner le fait que l'ensemble des connaissances du savoir humain, et notamment toutes les découvertes scientifiques qui sont faites aujourd'hui sur le génome humain et sur l'ensemble des espèces vivantes, sont aujourd'hui menacées de privatisation, dans la mesure où si les multinationales ont la possibilité de déposer des brevets sur ces découvertes, alors ça voudra dire qu'à l'avenir, tous ceux qui utiliseraient pour leur activité économique ce progrès des connaissances devraient payer des royalties à ceux qui détiennent les brevets. On se rappelle l'année dernière la tentative de procès des firmes multinationales pharmaceutiques à l'Afrique du Sud et au Brésil, contre l'Afrique du Sud et le Brésil, parce que ceux-ci avaient eu le projet de distribuer à bas prix des médicaments génériques contre le sida à leurs malades. Alors malade atteint du sida. Et c'est devant le tollé que cette menace de procès avait soulevé que les multinationales avaient fini par reculer et avaient donc retiré leur plainte contre ces deux pays. Mais la menace reste quand même présente. Si le rapport de force s'inversait en leur faveur, il ne faut pas douter qu'elle reviendrait à la charge pour mettre des restrictions considérables à l'utilisation des découvertes scientifiques par tous les peuples de la Terre.
Il y a un petit truc que je ne comprends pas bien, ou du moins, j'arrive pas vraiment à mettre les choses en perspective. Il y a certains dirigeants occidentaux que je soupçonne peu d'altruisme. Or, on les entend à longueur de journaux et d'ondes, si on peut dire, glapir pour une meilleure intégration des pays du tiers-monde, notamment, à la mondialisation. Est-ce qu'en fait, la mondialisation est pas née au tournant des années 70, quand finalement les marchés occidentaux ont été quasiment saturés de biens de production ?
Il y a effectivement un lien entre cette marche forcée quasiment, cette accélération de l'histoire, cette volonté d'abolir très très rapidement toutes les barrières à la circulation des capitaux et des marchandises, il y a un lien entre cette volonté-là et le fait que, au tournant des années 70-80, le système économique capitaliste connaissait une grave crise structurelle. Et effectivement, on peut interpréter...
Crise structurelle, ça, on en est.
Et on peut interpréter cette marche forcée comme une forme de réponse à cette crise profonde, structurelle parce que profonde, touchant à l'organisation même du système économique qu'il traversait à ce moment-là. Donc au tournant des années 70, tous les pays développés ont connu, dans un premier temps, une baisse des taux de profit, une baisse des taux de rentabilité du capital, et donc une moindre incitation à investir, et donc un ralentissement très net de la croissance économique, même un arrêt pendant quelques années pour certains pays. Et la réponse trouvée par les classes dirigeantes dans le monde et par les gouvernements qui en sont le plus souvent les porte-parole fut de la fuite en avant, c'est-à-dire de profiter de cette crise-là pour d'abord imposer un recul aux salariats, et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que la montée du chômage a favorisé un affaiblissement des positions salariales dans le monde entier, à la fois dans les pays pauvres et dans les pays riches, et le système économique a rebondi sur ce renversement de rapport de force, mais ce renversement de rapport de force qui lui a été profitable puisqu'aujourd'hui il se trouve avoir rétabli considérablement ses taux de rentabilité, en tout cas jusqu'à la dernière période il avait considérablement rétabli ses taux de rentabilité, mais avec un effet pervers pour lui-même, c'est-à-dire que plus vous laminez les positions salariales, plus au bout d'un certain temps vous rencontrez la difficulté d'écoulement des marchandises. Et les crises la crise que nous connaissons sont de nouveau aujourd'hui, après une euphorie et des espoirs faramineux qui avaient été placés dans la soi-disant nouvelle économie, eh bien cette crise-là est en grande partie une crise de surproduction, c'est-à-dire que la plupart des marchés traditionnels aujourd'hui sont encombrés parce que les marchandises n'arrivent pas à s'écouler aussi facilement que les entreprises le souhaiteraient. Et le fait de ne pas pouvoir suffisamment écouler cette marchandise a des retombées après sur les marchés financiers. L'éclatement de la bulle financière qui s'est produit ces derniers mois, enfin disons depuis un an et demi, est consécutif à cette difficulté de rentabilité pour le capital. Donc la bulle ne peut pas éternellement enfler, il arrive un moment où elle a tellement enflé que les perspectives de rentabilité espérées ne se concrétisent pas. Et à ce moment-là, elle éclate. Et c'est à cette situation-là que nous assistons aujourd'hui.
Tissot et des hommes, toujours en compagnie de Jean-Marie Haribet, professeur d'économie à la faculté de Bordeaux. Ce que vous me dites me laisse complètement... Je suis laminée aujourd'hui. On dirait vraiment que le système économique que vous décrivez est une pieuvre absolue. Et on se demande s'il y a quelque chose à faire contre ça.
Mais bien sûr. Sinon, nous n'en parlerions même pas. Alors, d'abord, il y a des urgences auxquelles il faut répondre. L'urgence, c'est de mettre un terme à l'appauvrissement général de la plupart des pays pauvres. Bon, alors les mesures d'urgence les concernant sont assez simples, c'est-à-dire qu'il faut fournir une véritable aide à un véritable développement qualitatif. Il faut mettre en place un certain nombre de taxes internationales qui seraient affectées à cette aide publique internationale, alors taxe globale sur les transactions de change, la fameuse taxe Tobin, mais aussi taxe sur les profits des multinationales, qui pourrait donc servir à assurer la satisfaction des besoins essentiels qui sont aujourd'hui niés. Ça, c'est l'urgence. Et en prenant ces mesures d'urgence, on est amené à réintroduire une forme de régulation qui a été laminée au cours des deux décennies précédentes. Alors, cette régulation nouvelle, cette réintroduction d'une régulation démocratique internationale suffit-elle ? Elle est absolument nécessaire, mais à mon sens, elle ne suffit pas. Parce que, et c'est ça qui oppose justement les tenants d'un retour à une régulation, mais pour conforter, pour refaire partir le système sur des nouvelles bases plus saines, moins spéculatives, moins dévastatrices, ou bien ceux qui pensent que, de toute façon, le système économique fondé sur la recherche du profit est incompatible avec une véritable émergence de la solidarité à l'échelle du monde, est incompatible avec la préservation d'une planète pour nos enfants et nos petits-enfants à venir. Et donc, il s'agit de savoir si on se sert de cette nouvelle régulation que l'on voudrait introduire pour pallier les dégâts les plus criants, les méfaits les plus criants de ce système, ou bien si on s'en sert comme tremplin pour construire d'autres rapports sociaux. Parce que, comme le disait Keynes déjà dans les années 30, l'humanité, bon, elle sait à peu près résoudre ses problèmes d'intendance. Si elle le veut bien, elle sait à peu près résoudre ses problèmes d'intendance. Mais elle a une très grande difficulté, cette humanité, c'est celle qui consiste la tâche qui consiste à construire d'autres relations entre les êtres humains, c'est-à-dire d'autres rapports sociaux, comme disait Marx. Mais là, je crois que ces deux grands économistes se rejoignent tout à fait. L'un qui voulait inventer de nouvelles relations humaines et l'autre qui pensait qu'on pouvait les construire en bâtissant d'autres rapports sociaux que ceux légués par le capitalisme. Donc une régulation est nécessaire, mais non pas pour conforter ce système, mais au contraire pour s'en servir de levier, de tremplin, de façon à ce que des processus démocratiques véritables voient le jour. Il y a des exemples dans le monde qui montrent qu'on peut construire une véritable démocratie. Alors il y a le célèbre exemple de Porto Alegre, mais qui n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres exemples, d'autres expériences dans le monde qui sont menées. Et je crois qu'il faut se servir de ces exemples-là pour montrer que il n'y a pas d'échéance fatale, que le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire humaine, et que celle-ci peut connaître de nouveaux rebondissements meilleurs si justement on ne se contente pas de réaménager un système économique dont la logique est profondément dévastatrice, à la fois socialement et écologiquement, mais si progressivement on met en place un certain nombre de mécanismes qui sont susceptibles d'inverser cette logique-là. Alors, quels mécanismes ? Pour être tout à fait simple et concret, et qui peuvent être mesures qui peuvent être prises dans un laps de temps relativement raisonnable, je crois que chaque fois qu'on renforce les droits sociaux, dans les entreprises, dans la cité. Chaque fois qu'on renforce ces droits-là, alors on enfonce un coin dans les mécanismes du capitalisme. Chaque fois qu'on réduit le temps de travail, on réintroduit une réappropriation des gains de productivité. Chaque fois qu'on renforce le pouvoir des salariés, on fait en sorte que la spéculation à la bourse soit moins forte. Et donc, l'inversion de la logique du système ne viendra pas nécessairement, comme on l'a cru autrefois, d'un renversement violent, voire militaire ou paramilitaire, et on ne prendra pas à l'Élysée de force. Mais je crois que si les mouvements sociaux et syndicaux aujourd'hui sont capables d'unir leurs efforts sur des terrains autrefois complètement séparés, le travail et puis le hors-travail, autour d'idées assez simples, réintroduire des droits démocratiques partout, réintroduire ou introduire des droits démocratiques partout, affecter prioritairement les gains de productivité à ceux qui les produisent et non pas à ceux qui s'enrichissent parce qu'ils possèdent le capital, je crois que là, on tient une des pistes qui peuvent nous permettre de retrouver l'espoir et sortir de cette vision catastrophique dans laquelle vous craigniez tout à l'heure que nous nous enfermions.
Il me reste juste à vous remercier de nous avoir accordé ce temps. Comme souvent, on est un peu obligé de faire un peu court, un peu bref, un peu synthétique. Je ne peux que recommander alors vraiment très vivement le livre de Jean-Marie Arribet qui s'appelle « La démence sénile du capital ». Rien de très folichon a priori. « La démence sénile du capital, fragment d'économie critique » qui a l'avantage de se présenter sous forme de micro-chapitres puisque ce sont des anciennes chroniques que vous teniez dans dans le passant ordinaire. Ça peut être lu dans le désordre, dans l'ordre, on peut revenir dessus, on peut méditer un petit peu plus longuement, et c'est vraiment son avantage.
Du désordre peut renaître quelque chose de positif.
Et la semaine prochaine, chose exceptionnelle, nous parlerons moins d'économie que de politique au sens propre. En effet, si vous vous souvenez, si vous étiez à l'écoute l'année dernière, vous avez peut-être remarqué que je concluais souvent mes émissions par un « Mais comment se fait-il que des hommes de gauche acceptent cela ? Comment se fait-il qu'ils ne disent rien, qu'ils ne réagissent pas ?» Et donc la semaine prochaine, nous recevrons Laurent Mauduit, qui est journaliste au Monde et qui vient de publier « La fin du socialisme ». Et il tentera d'apporter une réponse possible à mes lancinantes interrogations. Voilà, à la semaine prochaine.